Merci Émilie, on est fait la grande table comme tous les jours, deux parties sur le fil de l'actualité de la culture et des idées. Aujourd'hui, une table ronde autour de la figure d'Alan Turing, génie des mathématiques et pionnier de l'informatique. La musique, ce sera Cléa Vincent et puis aux alentours de 13h25, le portrait sera celui de Jacques Nolo. Mais tout de suite, il est 12h30 et c'est l'heure du journal de la rédaction. Journal présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. Au lendemain d'un nouvel acte terroriste en France visant cette fois une église catholique, son curé et ses paroissiens à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen, François Hollande a réuni ce matin tous les représentants des cultes pour un moment de communion et de fraternité entre les religions. Reportage à suivre de Maxime Fayol. On verra ce que l'on sait des filières djihadistes dans cette région, en Normandie avec Marie Bonisseau. On évoquera enfin les questions que se posent plusieurs médias en France. Attentat après attentat, les pratiques évoluent, nous dira Cécile de Kervasdoui. En Turquie, la répression se poursuit encore une fois à l'encontre de journalistes ce matin. 47 d'entre eux du quotidien très célèbre Zaman sont visés par un mandat d'arrêt. Nous entendrons le rédacteur en chef de la version française du journal. Au Japon, une relance économique à coût de milliards, 241 milliards d'euros, rien que ça, nous dira Jean-Marc Chardon. Ce sera la fin de cette édition. Ils étaient tous là sur le perron de l'Élysée tôt ce matin, en signe d'unité, de fraternité, tous les représentants des cultes, au lendemain de l'attaque d'une église catholique à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen, et de l'assassinat du curé par deux hommes, abattus ensuite par les forces de l'ordre, un acte terrifiant revendiqué par l'organisation État islamique. Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
Vous étiez ce matin à l'Élysée, au-delà de la photo, de cette image d'unité, que disent ces autorités religieuses? Y a-t-il des pistes de réflexion ou de réforme?
Déjà, les responsables de cultes sont unanimes sur un point. Il faut avancer, faire encore plus en termes de rencontres et de dialogues interreligieux. Un vœu déjà formulé après les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre. Mais les responsables ont aussi évoqué l'aspect sécuritaire lors de cette réunion. Est-ce qu'il faut aller vers davantage de forces policières devant les lieux de culte? Ce n'est pas l'avis de François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France.
Beaucoup de choses sont déjà faites, en particulier pour ce qui concerne les lieux de culte juifs et musulmans dans ce pays, mais aussi pour un certain nombre de lieux symboles du culte chrétien. Il est évident que aller au-delà, c'est-à-dire mettre en place un système devant chaque lieu de culte dans ce pays, est absolument inconcevable et infaisable. En revanche, il s'agit aussi de faire appel à la maîtrise de chacun, aux bonnes pratiques.
De son côté, le recteur de la grande mosquée de Paris, Dalil Boubekeur, veut une attention soutenue devant les lieux de culte. Il a également fait part de son émotion après ce qu'il appelle un sacrilège blasphématoire. Et il a ensuite évoqué le rôle des musulmans après ce nouvel attentat.
Nous avons espéré que dans l'avenir, ce serait l'heure pour les musulmans de prendre conscience de ce qui ne va pas dans cette vision mondiale de l'islam et que les musulmans de France soient à l'initiative d'une formation de nos religieux beaucoup plus attentive et qu'une certaine réforme dans nos institutions soit à l'ordre du jour.
Dalil Boubekeur parle ici notamment d'une formation laïque des imams en plus de leur formation religieuse, un souhait qu'il formule déjà depuis plusieurs années.
Maxime Fayol, ils étaient tous là ce matin et ils seront tous, ces représentants du culte, ils seront tous à l'écoute de la parole papale, la parole du Vatican. Le pape François attendu cet après-midi à Cracovie, en Pologne, pour les journées mondiales de la jeunesse. Il est attendu, bien sûr, en réaction à cet acte qu'il qualifiait déjà hier de particulièrement barbare. Attentat après attentat, on est toujours autant sidéré. Sidéré aussi de voir cette carte de France se noircir, des points venir ci et là, après Paris, la région parisienne, après Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie. Que sait-on exactement, Marie Bonisseau, de cette région Normandie?
Eh bien, Saint-Étienne-du-Rouvray a déjà été associé au djihadisme. C'était en novembre 2014, la DGSI avait alors interpellé plusieurs personnes, toutes dans l'agglomération de Rouen, toutes soupçonnées de vouloir partir en Syrie. Des jeunes gens, des convertis comme Franz, 23 ans, sa compagne Laetitia et sa belle-sœur, les trois venaient de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Ils s'étaient d'abord rencontrés sur Internet, puis avaient trouvé deux points de ralliement, deux mosquées, une à Elbeuf et l'autre à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans cette microfilière. Il y avait aussi un autre jeune Normand, Jordan, 22 ans, qui lui vient de Vernon, dans l'Eure, pas très loin non plus, et qui aurait réussi à rejoindre l'État islamique en Syrie. Mais le plus connu de ces convertis normands, ce n'est pas lui, c'est un autre jeune du coin, Maxime Auchard, 22 ans, originaire lui du Bosque Rouget en Roumois, un petit village juste à côté d'Elbeuf. Il s'est converti tout seul sur Internet, semble-t-il, et il est parti dès l'été 2013 en Syrie, sous le nom d'Abou Abdallah Al-Faransi, dit aussi le français. Maxime Auchard, c'est l'un des instruments de propagande de Daesh, identifié notamment sur une vidéo montrant l'exécution de 18 otages syriens. C'est l'un des bourreaux, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être placé sur la liste noire des terroristes les plus recherchés par les États-Unis. Maxime Auchard, très actif sur Skype, sur Facebook, sur Twitter. Twitter où il avait notamment annoncé au journal Le Monde que l'État islamique s'apprêtait à sévir en France. C'était quelques jours avant la tuerie de Charlie Hebdo. Maxime Auchard était parti avec un autre jeune de son village, un fils d'exploitant agricole, un étudiant brillant. Alors, y a-t-il une filière normande ? Non, affirmait le préfet de Seine-Maritime en novembre dernier. Il évoquait à cette époque 140 personnes à risque dans le département, dont 30 sous surveillance particulière. L'enquête en cours chez les terroristes de Saint-Étienne-du-Rouvray et leurs proches va peut-être permettre justement d'identifier des liens entre ces potentiels candidats au djihad.
Marie Bonisseau, j'ajoute que François Bayrou, président du Modem, évoquait hier la présence d'une mosquée salafiste dans cette commune de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il parlait même d'une communauté fanatisée. Les autorités musulmanes locales démentent ce midi ces affirmations. On aura l'occasion de les entendre dans le prochain journal à 18h. Il y a des conséquences aussi chez les médias. Une remise en question après chacun de ces actes terroristes. Plusieurs titres de presse choisissent d'en montrer moins, de ne pas tout relayer comme pour ne pas encourager d'autres actions de ce type. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
Une réflexion par exemple soumise ces toutes dernières heures au sein de la profession, on parle de l'anonymisation des terroristes.
Oui, il y a 3 ans déjà, il y avait eu cette interrogation dans les rédactions au sujet des vidéos de propagande ou de revendications de Daesh. Fallait-il les relayer ou non ? Certains médias ont très vite dit non parce que c'est faire le jeu des terroristes que de relayer leur propagande guerrière et macabre. Mais aujourd'hui, après Nice et après Rouen, l'idée qui fait son chemin dans les rédactions et que l'on retrouve aussi sur les forums ou dans les commentaires d'articles de presse sur le net, c'est la question du nom et du parcours des terroristes. Georges Moréas, un ancien commissaire, considère par exemple que le tapage médiatique autour de ces terroristes sert le terrorisme, car il provoque un effet de mimétisme et d'entraînement, un peu comme du temps où dans les quartiers, on se mesurait en brûlant le plus grand nombre de voitures d'un quartier à l'autre. Et il n'est pas le seul à le penser. Une pétition tourne sur Change.org qui a déjà recueilli près de 70 000 signatures en moins d'une semaine. Les politiques de droite et de gauche appellent aussi de leur vœu à cette anonymisation. Et la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, et même on passe de faire une proposition en ce sens dès le mois de septembre. Reste qu'on peut quand même s'interroger sur la faisabilité d'une telle proposition. D'abord parce que les médias préféreront sans doute payer une amende pour continuer à nommer et à raconter le parcours des terroristes. Et ensuite parce qu'à l'heure d'Internet, les vidéos, les photos et les noms des terroristes sont très faciles à trouver.
Cécile de Kervas-Doué, justement sur ces questions, vous avez joint le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio, qui signe l'éditorial du journal à paraître cet après-midi. L'édito s'intitule « Résister à la stratégie de la haine ». Je vous propose de l'écouter. Il se dit contre l'anonymisation.
C'est vrai qu'avec la répétition, on se l'est dit à partir de Nice, qu'on était mal à l'aise avec la mise en avant de photographies issues du passé, de la vie quotidienne de ces terroristes, comme on a pu le faire précédemment. C'était aller dans le sens d'une éventuelle glorification posthume des terroristes, leur accorder peut-être une forme de victoire, le fait qu'on publie des images d'eux, de leur vie ou de leur posture parfois martiale, guerrière, selon les poses qu'ils peuvent prendre. Donc on s'est dit qu'on n'allait plus publier ce type de photographie. En revanche, les noms, en revanche, les éléments des parcours, il faut qu'on continue à pouvoir comprendre et il faut continuer à pouvoir nommer les personnes. Donc ça, effectivement, je sais qu'il y a des appels à anonymiser les terroristes. Moi, je continue de penser que l'identité de ces terroristes est un élément d'information avec lequel on ne peut pas transiger. Il est donné par le procureur dans une conférence de presse. Dans une situation telle que celle-là, on voit bien que le terrorisme cherche à nous dissuader de chercher à comprendre, cherche à nous faire répondre mécaniquement à la violence par la violence. Je pense que tout ce qui nous fait réfléchir, tout ce qui nous aide à comprendre, tout ce qui nous aide ensuite à trouver des solutions va évidemment dans le bon sens. Donc, il ne faut surtout pas se lancer sur des pistes où on déshumaniserait ces personnes, où on en ferait des monstres purs. Non, ce sont des produits de nos sociétés. Non, ce sont des êtres manipulés par un certain type de propagande. Et oui, il faut à tout prix raconter tout ça pour pouvoir se donner les moyens de lutter contre.
Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, joint par Cécile de Kervas-Doué. Midi 40 sur France Culture, la suite du journal. La Turquie du président Erdogan poursuit sa répression après le putsch raté. 47 nouveaux mandats d'arrêt ont été émis ce matin, encore une fois visant des journalistes. Là, le célèbre quotidien Zaman, déjà placé sous tutelle depuis le mois de mars et qui, depuis le printemps, du coup, avait une ligne éditoriale un peu plus convenable pour le pouvoir. Ce journal dispose de plusieurs éditions dans le monde, dont une en France. Et Valérie Creva vient de joindre son rédacteur en chef, Emre Demir.
Aujourd'hui, on assiste en fait à une sorte de punition collective qui cible le journal Zaman. Donc Zaman, pour rappeler, ce journal a été fermé, saisi, confisqué par le gouvernement au mois de mars. Donc il y a déjà plus de 6 mois. La totalité de ses salariés, de ses chroniqueurs, étaient en chômage. Et on sait que le gouvernement accuse le mouvement Gulen ou l'imam Gulen. Et donc, évidemment, Zaman est connu par sa ligne pro-Gulen. Donc, il y a une logique, mais quand on voit la liste des chroniqueurs, on voit des profils antimilitaires, gauche, athées, laïcs, ou un grand poète, l'un des poètes le plus important, le plus connu de la Turquie, Hilmi Yavuz, il y a une décision d'arrestation sur lui aussi, juste parce qu'il a écrit une chronique littéraire. Toutes ces décisions, ça n'a aucun sens. La seule source d'information aujourd'hui, c'est l'agence Anatolie, donc l'agence officielle, et tous les journaux, sans exception, Kemaliste, Gauche, etc., se sont obligés de s'aligner en fait sur la version officielle des choses. Donc, il y a quand même une atmosphère pesante. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a 30 jours de garde vue. Amnesty International a parlé de torture dans la détention. Donc, les gens, ils sont, surtout les journalistes, ont évidemment du peur.
Emre Demir, le rédacteur en chef du quotidien Zaman en France. Au moins 44 morts, 170 blessés. Le bilan ne cesse de s'alourdir d'heure en heure après un double attentat en Syrie dans la ville de Kamishli. Double attentat qui visait les forces kurdes dans cette ville du nord-est syrien, frontalière avec la Turquie. C'est une voiture piégée ainsi qu'une bombe placée sur une moto qui ont donc explosé. Double attaque revendiquée par l'organisation État islamique. Le chiffre du jour, 28 000 milliards de yens. Retenez plutôt 241 milliards d'euros pour la relance économique du Japon. Décision du Premier ministre japonais Shinzo Abe, Jean-Marc Chardon. Décision surprenante. Enfin, la somme est impressionnante.
Oui, le chiffre est impressionnant. 241 milliards d'euros pour relancer l'économie d'un archipel où les décideurs n'ont pas trouvé la panoplie des armes économiques susceptibles de faire repartir la croissance. Car l'économie japonaise, si elle est sortie de récession, fonctionne sur le mode un pas en avant, un pas en arrière. Un bon trimestre rattrape le précédent, mais pas de vigueur économique d'ensemble. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Les trois flèches brandies par le Premier ministre, vous vous souvenez, les Abenomics avaient pour objectif de dynamiser cette croissance en injectant des liquidités pour faire baisser le yen, en lançant de grands travaux pour garnir les carnets de commandes des entreprises et puis en faisant des réformes structurelles afin entre autres de flexibiliser le marché du travail. Peine perdue, la dévaluation du yen n'a pas dopé les exportations, les investissements ils patinent toujours, la consommation s'essouffle. À l'évidence, les résultats ne sont pas là. Alors que faire? Eh bien, le plan de soutien qui vient d'être annoncé fait le pari, lui, d'une stimulation massive de l'économie. Le noyau dur consistant à financer des projets publics, qu'ils soient nationaux ou locaux. Un plan qui est prévu sur plusieurs années, en fait, avec autant de points d'interrogation sur ses chances de succès.
Jean-Marc Chardon, merci. En pleine période de vacances, en plein été, les hôtesses et stewards d'Air France ont choisi de mettre la pression sur leur direction avec le début aujourd'hui d'un mouvement de grève de 6 jours. La situation ce midi est calme dans les aéroports parisiens. Ce sont surtout les moyens courriers qui sont touchés. 13% des vols au total annulés selon la compagnie. Bonjour Anne Lorchouin.
Bonjour Ludovic.
C'est une première pour ces personnels navigants que de se lancer dans une grève de près d'une semaine.
Oui, pas un mouvement illimité reconduit chaque jour et surtout un mouvement contre un nouvel accord collectif qui ne prend effet qu'au 31 octobre prochain. Nouvel accord reconduit a priori à peu près dans les mêmes termes que l'ancien. Cette stratégie syndicale est clairement un coup de semonce destiné à mettre la pression au moment de l'année où l'activité de la compagnie est la plus dense avec un manque à gagner potentiellement important pour l'entreprise. entreprises. Nul doute que les hôtesses et les stewards ont en tête l'accord transitoire négocié récemment avec les pilotes, qui ont obtenu gain de cause grâce à la menace de grève, et sous condition d'ailleurs de ne plus faire grève jusqu'à novembre. Pour les personnels de bord, cette menace n'aura pas suffi. Ils dénoncent par ailleurs un climat social tendu. Surtout, ils estiment légitime qu'après 5 ans de sacrifices avec le plan de restructuration Transform 2015, ils récoltent enfin le fruit de leurs efforts.
Et puis Anne-Laure, ce mouvement s'inscrit dans un contexte financier plutôt favorable pour l'entreprise.
Oui, une bonne santé financière retrouvée depuis le début de l'année, mais fragile, en témoignent ses résultats du deuxième trimestre sortis ce matin pour Air France. Ils sont meilleurs que prévu, mais les recettes attendues pour la traditionnellement faste période juillet-août sont en baisse à cause notamment de la désaffection de la clientèle asiatique. Chinois et japonais diffèrent leur voyage en France par peur des attentats. Air France profite, cela dit, de la baisse du prix du pétrole, mais la direction avance qu'en matière de transport aérien, rien n'est sûr à long terme, sans parler de la concurrence des compagnies du Golfe, beaucoup plus compétitives. Il faut donc, selon cette direction, se préparer à de nouveaux grains.
Anne-Laure Chouin, Air France vient de communiquer à l'instant ses prévisions de circulation de trafic pour demain. 80% des vols seront assurés. Un petit point du temps de ce mercredi 27 juillet 2016, c'est gris et humide au nord du Finistère aux Ardennes. Un temps calme et de belles éclaircies sur le reste du pays. Les températures de 19 à 23 degrés cet après-midi en Bretagne, près des côtes de la Manche. 24 à 30 degrés du nord au sud, 30 à 35 degrés autour de la Méditerranée. Édition réalisée avec François-Charles Domergue, prochain journal 18h.